Banque Atlantique, filiale du groupe Banque Centrale Populaire, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Namoury Dosso.
Merci d'être avec nous jusqu'à 9h, temps universel. L'antenne est à vous. Votre émission est en édition spéciale ce matin afin de revenir sur l'événement de ce début de semaine, le décès du pape François à l'âge de 88 ans. C'était hier. Le souverain pontife a été emporté par un accident vasculaire cérébral dans sa résidence de la Casa Santa Marta au Vatican. Ce pontife venu du bout du monde a incarné une église audacieuse, tant d'envers les exclus, intrépides et audacieuses face aux dogmes d'une frange de l'Église, qu'il a bousculé à travers certaines de ses prises de position. Jusqu'à son dernier souffle, il a porté la voix des sans-voix, bénissant le monde d'un souffle fragile lors de sa dernière apparition publique, le jour de Pâques. Quel souvenir gardez-vous du pape François ? A-t-il marqué un moment de vos vies ? Et si oui, lequel ? Que pensez-vous de ces 12 années de pontificat ? Vos témoignages, réactions et commentaires nous intéressent. On vous attend au standard 33 9 693 693 70. Je lirai également quelques-unes des très nombreuses réactions que vous nous avez transmises via le WhatsApp et le Facebook de l'émission. Depuis hier, vous êtes donc très nombreux à réagir à la mort du pape François. Vous avez adressé un nombre considérable de questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec le plus de précision possible. Et pour cela, j'ai à mes côtés Véronique Guémard, journaliste à RFI et présentatrice du magazine Religion du Monde, tous les dimanches à 10h10, temps universel. Également avec nous au téléphone, Geneviève Delru, journaliste, ancienne présentatrice de l'émission Religion du Monde. Mesdames, bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour.
Bonjour.
Nous allons débuter cette édition spéciale avec les réactions d'auditeurs. Nous sommes en République centrafricaine avec Nadège. Bonjour Nadège.
Bonjour Namoury Dosso, bonjour à tous vos invités.
Alors vous souhaitiez exprimer votre émotion après la disparition du pape François, on vous écoute.
Oui, en fait pour moi c'est d'abord une grande tristesse parce qu'on a perdu quelqu'un de grand. C'était un homme aimant et un homme qui n'avait pas peur du danger. Je prends l'exemple de mon pays, la RCA, le pape était venu pendant un moment où on était en guerre. Le 30 novembre 2015, quand le 29 et le 30, il a voulu passer la nuit, vous voyez. C'est quand même un grand homme avec tout ce qu'il a. Il n'a pas eu peur du danger, il est resté dormir dans un pays qui était en feu, un pays en guerre. Et il est venu, il a même ouvert la première porte ici à la cathédrale de Bangui. C'était vraiment un événement grand pour nous. Et ce que je retiens aussi, c'est que c'est un homme qui a la foi. Il sait que là où il est, quand même il y a le danger, sa présence avec le soutien qui est en lui, ça ferait beaucoup de miracles. Après son départ, notre pays, la RCA aujourd'hui, on n'est plus retombé dans les coups d'État, on n'est plus retombé dans les événements si douloureux qu'on avait vécu entre 2013 à 2015.
Merci Nadège pour votre témoignage et votre réaction. Et à l'instant, on vient de l'apprendre, le Vatican annonce que les funérailles du pape François se tiendront ce samedi à 8h, temps universel. Nous sommes également en ligne du Bénin avec le prêtre Hubert Kedowidé, délégué national de l'UDI des clergés béninois. Mon père, bonjour, soyez le bienvenu.
Bonjour et bonjour aux amis auditeurs et auditrices.
Alors que retenez-vous du parcours et du pontificat du pape François ?
Moi, je pense que c'est un pape de miséricorde, un pape d'espérance. D'ailleurs, il est parti dans cette année jubilaire que lui-même il a nommée pèlerin d'espérance. Et nous vivons dans l'espérance que le Père Céleste va l'accueillir dans son éternité. C'est le pape des pauvres, c'est le pape des rejetés, des mal-aimés, des abandonnés, des incompris. Et c'est le pape du dialogue entre les religions, le pape qui offrait l'hospitalité à tous, au point même parfois de déranger certaines personnes par son ouverture, son grand cœur, pour les autres. C'est aussi un pape qui appelle à l'unité, à la paix. C'est un pape défenseur aussi de l'Afrique cas durant ses visites dans certains pays d'Afrique. Et il appelle non seulement à l'accueil des migrants, il appelle aussi à renoncer à l'exploitation des ressources naturelles, à l'usurpation du pouvoir par certains chefs d'État africains. Il dénonçait aussi la corruption et l'impérialisme culturel et économique, bien sûr. Donc c'est un pape qui, pour moi, a, durant toute sa vie, défendu l'intégrité de toute la création, à la fois humaine et la création naturelle, le monde, la sauvegarde de la nature par ses enseignements. Vraiment, c'est une immensité que nous venons de perdre et nous espérons que nous qui sommes encore là en tant qu'héritiers, nous puissions accueillir et continuer son œuvre.
Hubert Kedowidé, mon père, merci pour votre témoignage après la disparition du souverain pontife hier. Vous avez été très nombreux à nous adresser vos questions au sujet de la disparition du pape François. Nous allons tenter de répondre à quelques-unes d'entre elles. Marius, bonjour.
Bonjour Namori, bonjour à toute l'équipe d'Appel sur la qualité. Je salue Geneviève Delleux.
Vous nous appelez d'Abidjan, Côte d'Ivoire, alors nous vous écoutons, Marius.
Ok, Namori, j'ai quelques questions. Quelle réforme majeure le pape François avait-il introduit au sein de l'Église catholique? Et que peut-on retenir de son pontificat?
Eh bien, puisque vous venez de saluer Geneviève Delleru, nous allons poser la question à Geneviève Delleru.
Bonjour, Marius. Bon, le point principal, selon moi, c'est effectivement une ouverture, ça c'est évident, une tentative de décentralisation, une mise en mouvement en fait. Hein. Alors, et c'est trop tôt pour dire les fruits que ça portera, c'est l'avenir qui le dira, mais ce pape a voulu décentraliser l'Église, c'est-à-dire on le voit avec les synodes qui se sont tenus, le synode sur la synodalité, c'est-à-dire en fait donner plus de pouvoir, plus d'autonomie, aux églises locales, ça c'est très important, et c'est pourquoi aussi il a voulu réformer la curie donc pour cette décentralisation. Il a également voulu assainir l'Église, ça on a pu le voir avec notamment la réforme des finances du Vatican, et l'assainir aussi avec la lutte contre la pédocriminalité au sein de l'Église, même si le dossier évidemment, est loin d'être fermé, et même si, en effet, le pape, il y a effectivement des erreurs qu'il a pu commettre, il les a reconnues, mais bon, globalement, quand même, il y a une véritable mise en route depuis d'ailleurs le pape Benoît XVI, de ce dossier, qui n'est pas refermé, mais quand même, il y a eu des avancées tout à fait importantes, et puis je dirais aussi qu'il a voulu changer la culture cléricale, en fait, décléricaliser l'Église, c'est-à-dire que les prêtres, voyez-vous, dans la question des abus sexuels, la question du cléricalisme, il l'avait souvent souligné, avait un rôle, c'est-à-dire le pouvoir du prêtre. Et là, vraiment, il a voulu dénoncer ce cléricalisme qui était aussi à l'origine d'emprise spirituelle. Donc voilà, c'est un pape qui aura mis l'Église, selon moi, en mouvement. Maintenant, il y a encore beaucoup de choses à faire. La place des laïcs, il a donné beaucoup plus de place aux laïcs, mais enfin, il reste encore un très gros travail à faire. Il y a des laïcs aujourd'hui qui peuvent effectivement voter lors des synodes, ce qui est tout à fait nouveau. Mais en effet, le chemin est encore long.
Le chemin est encore long, Geneviève. Marius, avons-nous répondu à votre question?
Oui, merci Namori, merci à Geneviève.
Eh bien justement, en parlant de la pédocriminalité au sein de l'Église, hein, Geneviève Delleru vient d'en parler, hein, nous avons ce témoignage qui nous vient de Christ à Brazzaville. Grâce à lui, les langues se sont déliées. Moi, j'ai eu le courage, grâce à lui, de dénoncer les abus sexuels dont j'ai été victime à l'âge de 16 ans de la part d'un prêtre belge. Et je sais que je ne suis pas le seul à avoir été victime de ce prédateur. Véronique Guémard, quel est le bilan du pape François dans la lutte contre la pédocriminalité au sein de l'Église?
Geneviève commençait à en parler. Effectivement, il a continué à ouvrir cette boîte de Pandore, hein, si on peut s'exprimer ainsi, qu'avait déjà ouverte Benoît XVI. Il a continué à en parler et c'est notamment lors de sa visite en pontificale au Chili en 2018, où il a reçu un certain nombre de témoignages extrêmement fort qu'il a pris la mesure aussi. Peut-être qu'il a qu'il a vu ce que cela faisait, ce que cela occasionnait sur des enfants, donc devenus adultes, comment cela détruisait leur vie. Hein. Je pense que ça a été extrêmement fort. Donc après, effectivement, le problème, c'est la mise en pratique hein, de ce qu'il a voulu faire et ce qui n'a pas vraiment avancé. Parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre de figures qui ont été quand même... protégé. Voilà, dont on n'a pas trop parlé, on a étouffé un certain nombre d'affaires. On sait par exemple par rapport à l'abbé Pierre, donc en France, que le Vatican savait depuis 1955, on l'a appris il n'y a pas très longtemps. Et eh bien tout cela, effectivement, se traitait avant à l'intérieur de l'Église. Bon, maintenant ça sort de plus en plus. Donc c'est quelque chose, comme disait Geneviève Delrue tout à l'heure, qui va continuer à sortir. On va voir aussi, selon le profil du prochain pape, mais c'est certainement une question que les différentes congrégations religieuses et les épiscopats des différentes régions du monde vont certainement pousser. En tout cas, certains veulent continuer à s'en emparer.
Alors, le pape François a accordé une attention toute particulière au continent africain. Il a visité 10 pays sur le continent et à chaque fois, il a manifesté une proximité avec le peuple africain. Pour en parler, nous accueillons Adam de N'Djamena au Tchad. Bonjour Adam.
Bonjour Monsieur Namouri et bonjour à tous.
Vous avez une question à ce sujet.
Et permettez-moi de présenter mes sincères condoléances à vous et à vos invités.
Merci, on a entendu. Quelle est votre question, Adam ?
Quels étaient les liens du pape François avec l'Afrique ?
Alors, quels étaient les liens ? On en a parlé hein, longuement sur RFI depuis hier. Geneviève Delrue, quel était le rapport entre le pape François, surtout sa vision qu'il avait vis-à-vis du continent africain ?
Bon, en fait, le pape François, comme les papes précédents, c'est pas plus en réalité. Je pense que tous les papes... les trois derniers papes, on va dire, se sont vraiment penchés sur l'Afrique, sur le continent africain. Alors simplement, il y a eu effectivement des voyages très forts. Hein. On l'évoquait, ce voyage à Bangui, où il n'hésite pas à aller au PK5 et à la mosquée d'ailleurs du PK5. Il y a donc ce voyage aussi en RDC, et ça, Véronique Guémard pourra mieux en parler que moi, puisqu'elle y était, bon, qui a été un voyage en effet extrêmement fort, où il dénonce ce pillage en effet de l'Afrique, hein, l'Afrique qui est donc pillée pour ses matières premières. Donc voilà, je pense que le pape François, comme les autres papes, avait une grande attention à l'égard de l'Afrique, d'autant que c'est un pape, en effet, on le sait, c'est le pape des pauvres, c'était le théologien de la pauvreté, François. Donc la question africaine lui était extrêmement proche.
Alors justement, Geneviève vient de l'évoquer, Véronique Guémard, vous étiez hein, en République démocratique du Congo lors du passage du pape François. Quel a été le moment le plus marquant, selon vous ?
En fait, il y en a eu plusieurs. Donc déjà, cette arrivée avec une foule très dense de personnes qui venues l'accueillir parce que enfin, les projecteurs étaient sur la RDC, dont les habitants disaient, on est des oubliés, personne ne parle de nous. Et bien là, on a une voix, et il était d'une certaine manière la voix des sans-voix. Et il venait parler au monde de ce qui se passait dans ce pays qui souffre depuis plus de 30 ans. Il a dénoncé effectivement ces pillages, donc ça c'était aussi un moment très fort. Hein. Ôtez vos mains de l'Afrique, hein. C'était ôtez vos mains de ces ressources, ces richesses. Et puis d'autres moments aussi avec cette messe très dense, avec on parle d'un million de personnes, hein, Ndolo, au centre de Kinshasa, cet aéroport qui avait été pris donc comme une espèce d'énorme cathédrale à ciel ouvert, où il a eu des mots encore aussi très forts et très simples aussi, c'est-à-dire un accès, il avait un accès. C'était une parole très simple, très directe aussi, vis-à-vis des dirigeants, où il tensait directement aussi les dirigeants pour dire, prenez vos responsabilités, occupez-vous du peuple, occupez-vous des gens, et notamment des plus vulnérables. Et puis une autre rencontre très importante qui a été... Comme il n'a pas pu aller à Goma, puisque la situation était très tendue, donc il était resté à Kinshasa, mais il avait fait venir des personnes de Goma. Il a pu entendre entendre des témoignages extrêmement forts de victimes de viol, de victimes de torture, de victimes d'exactions extrêmement violentes, donc, dans cette partie de l'Est de la République du Congo, qui aujourd'hui est malheureusement encore en guerre et de façon plus violente encore qu'il y a 2 ans.
Le pontificat de François a également été marqué par le dialogue qu'il a instauré entre les religions. À ce sujet, nous sommes en ligne de Douala au Cameroun avec Amadou. Soyez le bienvenu, Amadou.
Bonjour, monsieur Juan Gomez.
C'est Namori Dosso en ligne, mais c'est pas grave. On salue également Juan Gomez qui doit nous écouter de l'endroit où il se trouve actuellement. Amadou, quelle est votre question ?
Ma question, c'était quel était le lien du pape avec les autres religions ?
Geneviève Delru.
Eh bien, en fait, l'islam, on n'en parle peut-être pas assez, mais ça a été un des grands points de son pontificat, le dialogue avec l'islam. Il a rencontré à plusieurs fois le grand imam d'Al-Azhar, avec qui il avait, semble-t-il, vraiment noué une amitié, et ensemble, ils ont publié le document sur la fraternité humaine. C'est un document qui rappelle qu'on ne doit pas effectivement, qu'on ne doit pas tuer au nom de Dieu. C'est absolument tout le contraire, on doit se réunir au nom de Dieu. Donc, il y a eu ce document également dans l'encyclique Fratelli Tutti. Hein, il rappelle en effet cette proximité avec nos frères musulmans. Il faut se souvenir aussi que lors de son voyage en Irak, il va rencontrer l'ayatollah al-Sistani, donc c'est-à-dire l'islam chiite. Donc on voit bien qu'il y a chez lui une très grande préoccupation, alors que bon, son pontificat, hein, lors de son pontificat, il y a Daesh, il y a les attentats islamistes, il y a le terrorisme islamiste, et malgré cela, il va absolument continuer cette politique, j'allais dire, de la main tendue vis-à-vis de l'islam.
Justement, Geneviève, la mort du pape François suscitait des réactions élogieuses de la part des chefs religieux musulmans et juifs. Cher Ahmed Al-Tayeb, le grand imam de l'université d'Al-Azhar au Caire en Égypte, salue son rôle dans le renforcement des relations entre le Vatican et le monde musulman. Shemseddine Hafiz, le recteur de la mosquée de Paris, a salué le souverain pontife pour son engagement constant en faveur des plus vulnérables. Ou encore cette réaction de Haïm Korsia, le grand rabbin de France, qui a également salué l'engagement du pape dans la lutte contre l'antisémitisme et sa volonté de créer des liens de confiance à travers le monde. Véronique Guémard, que reste-t-il aujourd'hui des initiatives lancées par le pape François en ce qui concerne le dialogue entre les religions ?
C'est justement ce dont parlait Geneviève Delru à l'instant, c'est-à-dire cette volonté d'ouverture. Là encore, par exemple, sur la date de Pâques qui, cette année, est tombée donc le 20 avril, qui était donc Pâques pour les catholiques, les protestants, mais aussi pour les orthodoxes, il avait voulu marquer le fait que, eh bien, voilà, c'est l'opportunité de se rapprocher, d'essayer de faire des choses ensemble et pas. Voilà, surtout sur la date de Pâques qui est un petit peu problématique. Hein, sur tous les chrétiens devraient avoir la même date. Beaucoup se disent la même chose. Donc les orthodoxes disent « Ok, il faut que ce soit notre calcul ». Les catholiques parfois disent « Non, non, bah non, c'est sur notre calcul ». Là, le pape disait « Bon, bah, écoutez, voilà, il faudrait trouver une date qui convienne. Voilà, vous choisirez et puis on se mettra d'accord ». Donc cette année, c'était un petit peu symbolique. Et puis le dialogue avec les musulmans, donc Geneviève en parlait, effectivement, c'est quelque chose de très fort. Et là, quand il est allé par exemple en Asie, en septembre dernier, hein, il a fait un énorme voyage, hein, 12 jours, c'était très très long. Et quand il est allé en Indonésie, qui est un des pays musulmans les plus importants au monde, hein, en termes de nombre d'habitants, eh bien, là encore, il y a eu une rencontre très forte sur place, donc pour montrer cette ouverture à l'autre. Ça ne veut pas dire « je vais vous évangéliser » ou « vous allez me convertir ». Non, au contraire, chacun a sa place, mais on se parle en fraternité, hein, c'est comme ça qu'il le disait.
Y a-t-il une forme d'héritage sur ce sujet en ce qui concerne le pape François et surtout pour son successeur ?
Ben, ça va être justement une des questions qui va se poser selon le profil de son successeur. Mais il était dans ce dialogue et le dicaster pour le dialogue interreligieux est assez important aussi à Rome. Il est très dynamique et c'est quelque chose qui va certainement se poursuivre pour le prochain pontificat.
Merci Véronique pour cet éclairage. Restez avec nous, on se retrouve dans la deuxième partie d'Appel sur l'actualité en spécial ce matin au sujet de la disparition du pape François qui s'est éteint hier à l'âge de 88 ans, emporté par un accident vasculaire cérébral. Que vous inspire cette disparition? On attend vos réactions au 339-693-693-70. Restez avec nous, on se retrouve juste après le journal Afrique.